des mots certifiés exacts.
Et qu'on considérait comme l'anti-journal télévisé, puisque le journal télévisé était fabriqué par les jaunes de la grève de 68. Voilà. Bon, alors lorsqu'on me demande, comme vous le faites, d'évoquer mon parcours de journaliste et de documentariste, ce ne sont pas les innombrables plaies et bosses subies au cours de cet itinéraire en dents de scie qui me viennent d'abord à l'esprit. C'est au contraire la chance inouïe qui a été la mienne, le hasard tout à fait improbable qui a permis au fils de petit paysan dauphinois que j'étais, promis à une carrière de professeur de français, d'exercer le métier dont il n'osait même pas rêver, celui de journaliste de télévision. Comme je l'ai dit dans mon discours d'adieu à France 2 en 2006, j'avais l'impression à mes débuts de me retrouver par miracle à l'intérieur d'une merveilleuse lanterne magique. Et cette impression ne m'a jamais quitté, même si j'ai dû à de nombreuses reprises en payer charmant le prix. Et ce qui me frappe par ailleurs, c'est que 51 ans plus tard, la conception que j'ai de cette profession, j'ai envie de dire de cette mission, est exactement la même, malgré toutes les vicissitudes, toutes les déceptions, tous les échecs, toutes les erreurs. Je continue en effet à penser, comme au premier jour, que les journalistes, les baveux, comme on dit dans le métier, du moins ceux dignes de ce nom, ont un rôle indispensable à jouer pour la bonne marche de la démocratie. Ce rôle consiste tout simplement, pardonnez-moi le terme, à emmerder en permanence les hommes et les femmes de pouvoir, de tous les pouvoirs, à leur demander des comptes et à fournir aux citoyens les armes nécessaires leur permettant d'exercer dans de bonnes conditions leur métier de citoyen. Pas de démocratie possible sans journalistes libres. Et il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de journalistes libres et où il y a beaucoup de journalistes en prison. Le problème, c'est que la plupart des médias ne leur appartiennent pas aux journalistes et sont sous la coupe des hommes et des femmes de pouvoir, pouvoir politique ou pouvoir financier, et souvent les deux en même temps, et que les uns et les autres ont une sainte horreur des journalistes qui ne sont pas à leur botte. Ils ne supportent que ceux qui pratiquent ce que j'appellerais la voie de son maître. Ceux qui ont le bon goût de leur lécher les bottes plutôt que de leur mordre les jarrets. Pour une Élise Lucet, combien de Pujadas, de Pernod, d'El Kabach, de perroquets des évangiles du capitalisme libéral et d'adorateurs du Tina de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Savez-vous, par exemple, que tous les journaux régionaux du nord et de l'est de la France, tous, sans aucune exception, depuis la Voix du Nord jusqu'au Progrès et au Dauphiné libéré, appartiennent au même propriétaire, une banque, le Crédit Mutuel, et que l'essentiel de leurs informations, à l'exception des sports locaux, des chiens écrasés, des avis de décès, leur est fourni par la même rédaction installée à Paris. Tous. Vous voyez, tout le Nord-Est, quoi. Ou que la quasi-totalité des quotidiens nationaux, à l'exception de La Croix et de L'Humanité, appartiennent à des milliardaires du CAC 40, y compris Le Monde et Libé. De même pour les grands magazines et pour les chaînes de télé privées. Quand on pense à l'extraordinaire diversité de la presse de la Libération, c'est accablant. Je ne sais pas combien, mais c'est de l'ordre, c'est entre 40 et 50 journaux de tous bords, quoi. J'ai eu la chance d'appartenir à certaines périodes privilégiées à des rédactions à la fois pluralistes et relativement indépendantes, celle d'Antenne 2, par exemple, en 1981, après la victoire de François Mitterrand et sous la direction de Pierre Desgros. J'étais à l'époque membre du Parti communiste et l'un de mes meilleurs amis, Jean-Louis Le Sen, était militant au RPR. Et disons qu'on se contrôlait mutuellement, quoi. Hein. Ah bon, là, fais gaffe, tu débordes, hein. Tu dérapes. On ne se considérait pas qu'on était là pour défendre les convictions qui étaient les nôtres en tant que citoyens, mais pour faire ce travail dont je parlais tout à l'heure, de fournir aux citoyens les armes pour qu'ils puissent bien faire leur métier de citoyen. Et la diversité permettait de bien remplir cette mission. Et souvent, d'ailleurs, quand il y avait des problèmes du côté du RPR, c'était Jean-Louis Le Sen qui montait au créneau. Et lorsqu'il y en avait du côté du Parti communiste, c'était moi qui mettais mon grain de sel. Alors, peut-être pour introduire la discussion, j'évoquerai deux ou trois choses. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré la censure. J'étais tout jeune journaliste, c'était en 67. Et à Saint-Colonne, à la Une, on piaffait parce qu'il y avait à Saint-Nazaire une grève qui s'était déclenchée et qui était une grève incroyable. C'était une grève de mensuel, c'est-à-dire, bon, il y avait les horaires qui étaient les ouvriers du bas de l'échelle, disons, et puis les mensuels, c'était un peu le stade au-dessus. Et en général, posaient pas de problème, et puis qui, là, se sont fâchés, quoi, pour les conditions de travail, les salaires, etc. Et au chantier de l'Atlantique et dans d'autres entreprises de Saint-Nazaire, les autres catégories se sont mises en grève pour les soutenir, et puis ceux qui ne le faisaient pas ont été mis en lock-out par les patrons, ce qui fait que la ville était complètement paralysée, et ça a duré 2 mois. Alors nous, à Saint-Colonne, on disait ce qu'on appelait les papas, Père Desgros, Père Dumayet, Lazareff, Barrère. Bon, il faut y aller, quoi. Et Desgros nous disait, laisse faire les gilets rayés. Alors, s'il appelait les gilets rayés, vous savez, comme dans Tintin et Milou, les gilets rayés, c'est le serviteur qui apporte le plateau, ce qui était très, très exagéré, parce que il appelait les gilets rayés les journalistes du journal télévisé. Et c'était très exagéré, parce que parmi eux, il y avait des gens formidables. Il y avait des Frédéric Potcher, par exemple, des Maurice Seignot, qui étaient des gens très, 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 très courageux et très talentueux. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient été nommés directement par le pouvoir pour faire ce qu'on leur demandait de faire, quoi. Et les patrons de Saint-Colonne à la Une avaient bien intégré une chose, c'est que diriger un magazine qui profitait d'une grande liberté à condition qu'il parle de l'étranger. Vous voyez, qu'il donne l'idée d'un monde où tout allait mal. Il y avait des guerres civiles, etc., en particulier en Afrique, et qu'au milieu de ça, il y avait un îlot paisible qui était la France. Il ne fallait pas toucher à la France. Quand on touchait à la France, c'était chaud. Donc, tant qu'on allait montrer les horreurs du Congo belge, par exemple, l'assassinat de Lumumba, etc., bon, tout allait bien. Mais dès qu'on touchait à la France, aux problèmes politiques et aux problèmes économiques et sociaux français, immédiatement, il y avait un problème. Et alors là, voilà ce qui s'est passé. C'est que, à force de nous entendre casser les pieds, qu'est-ce qu'il faut qu'on y aille, quoi, Saint-Nazaire, etc., ils ont fini par céder. Au bout de 2 mois... et il nous en dit, bon, avec Hubert Knapp, j'étais réalisateur, je travaillais avec lui à l'époque, et ils nous ont dit, bon, bah, vous allez à Saint-Nazaire, mais vous faites, vous racontez ce qui se passe dans une ville ouvrière le 1er mai. Bon, bah, il se trouve qu'il y a une grève en ce moment, bon, mais vous faites le 1er mai à Saint-Nazaire. Ce qui était... Pierre Dumayet disait, moi qui suis expert en mauvaise foi, c'était tout à fait ça. Bon, alors on y va, et puis là on tombe sur un truc incroyable, quoi. Incroyable. Une grève qui durait depuis deux mois, avec des gens qui n'avaient aucune réserve financière, plus de salaire, plus rien pendant 2 mois. et une solidarité qui s'était mise en place, formidable, c'est-à-dire les paysans, par exemple, qui amenaient des centaines de kilos de patates, qui faisaient des distributions gratuites, les pêcheurs qui amenaient du poisson, les commerçants qui faisaient crédit, et puis bon, ou qui donnaient certaines choses. Et puis une solidarité nationale, ils partaient en bus à droite et à gauche, et les gens leur donnaient un soutien financier, ce qui leur a permis de tenir 2 mois, quoi. Et alors nous, on arrive à Saint-Nazaire le 1er mai, et on commence à filmer le meeting du 1er mai, quoi, avec Unitaire. Alors qu'à Saint-Nazaire, souvent, ça chauffait entre les uns et les autres, FO, la CGT, etc. Là, tout le monde était là. Et une ambiance incroyable. Des gens qui racontent comment ils ont pu tenir grâce à la solidarité, etc. C'était très, très émouvant. Et à 13h, on annonce l'arrivée des délégués qui étaient en négociation à Paris avec la direction des chantiers. Et ils avaient gagné. Voilà. Une grève en plus victorieuse. Alors on va les accueillir à la gare avec toute la ville, quoi. C'est une ambiance vraiment bouleversante, quoi. Et on termine, on tourne, on interviewe tout le monde, les uns les autres, etc. Et on revient à toute vitesse à Paris. Je pense qu'on devait être, je ne sais pas le 1er mai, ça devait être un dimanche ou un samedi, un truc comme ça, et il fallait, peut-être, ou un lundi, je ne sais plus, et il fallait en 3 ou 4 jours monter le reportage pour le passer le vendredi de Sainte-Colonne suivant, quoi. Donc, on travaille jour et nuit dans l'enthousiasme, on était vraiment très très content de ce qu'on avait ramené, et on nous dit projection, le matin le vendredi matin, projection, alors au producteur de l'émission, ce qui est normal. Mais arrive aussi le directeur de la télé, un certain Contamine, et arrive aussi un type que nous ne connaissions pas, qui s'annonce Forestier Sly. Alors moi, je découvrais, je débarquais là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, SLI, j'ai su que ça voulait dire Service de liaison interministérielle pour l'information. Et j'allais voir ce que c'était vraiment dans quelques minutes plus tard. Alors, on lance le film, le montage qui n'était pas tout à fait terminé, pas commenté, donc on commente à la volée avec Knapp. Et on entendait ce forestier qui maugréait dans son coin. Et lorsque les lumières se rallument, je crois que ça dure une demi-heure, etc., il se met à éructer. C'est du mauvais cinéma de 1936. Allusion au Front populaire. Alors là, pour lui, c'était l'horreur absolue, quoi. Et là, des groupes, notre producteur, qui a été un personnage à qui je dois beaucoup et qui a été un grand, grand homme de télé, lui dit: Monsieur, vous êtes là pour dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise politique. Faites votre métier, celui pour lequel vous êtes payé, mais quant à savoir si c'est de la bonne ou de la mauvaise télévision, c'est à nous de le dire, pas à vous. Ça fait drôle, hein, d'entendre ça. Eh bien, ça n'a rien empêché. Ça n'a rien empêché parce que Contamine et Forestier ont dit: mais c'est pas possible, c'est scandaleux, c'est partial. D'abord, on voit, il n'y a pas les patrons. Alors, nous, on dit: ben, écoutez, nous, on nous a demandé de faire un reportage sur Saint-Nazaire le 1er mai, et on est désolé, mais on n'a pas vu de patron. S'il y en avait eu, on les aurait interviewés, bien sûr. Alors, l'autre, Lazarev dit: ben, on pourrait peut-être retourner filmer les patrons. Alors, Oui, mais la grève est terminée, c'est plus du tout le même contexte. Et là, Dumayet, avec sa pipe, on pourrait peut-être leur demander de se refoutre en grève. Vous voyez l'ambiance un peu insolente. Et puis finalement, Forestier dit, ce reportage ne sera pas diffusé. Voilà. Parce que ce SLI, en fait, c'était la commission de censure de l'ORTF. C'est là que je la découvrais pour la première fois. Et cette commission de censure, c'était quand même extraordinaire, parce que les responsables des chaînes de radio et de télé publiques, tous les matins, vers 8h30, allaient au ministère de l'Information, dont le ministre comment il s'appelle celui qui a écrit Quand la Chine s'éveillera.
Oui, oui.
Perfit. Alain Perfit. Et le bureau du SLI était juste à côté du sien. Donc le matin, les responsables des chaînes, de l'information des chaînes publiques radio et télé venaient aux ordres. Alors, ils s'installaient et puis on leur disait, voilà, aujourd'hui il faut parler de ça, ça et ça. Alors ils prenaient des notes. Et puis il levait le doigt, il disait, et ça, est-ce qu'on peut en parler? Ah non, ça surtout pas, faut pas en parler, on va faire une loi, surtout n'en parlez pas, etc. Et ils repartaient avec leur petite note, ils allaient dans leur rédaction et ils disaient, voilà, aujourd'hui on fait ça, ça et ça. Oui, mais non, pas question. Voilà comment ça a marché. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant, c'est que le directeur de la télé, de l'information de la télé à l'époque, dont le nom m'échappe à l'instant, a écrit un livre et il disait, mais on était les mieux informés, qu'on avait l'information à la source. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Et ce film, eh ben, il n'est pas passé. Voilà. Il a été. Alors, ce qu'on a fait avec le monteur, parce que Knapp lui était complètement dégoûté, il est parti, etc. Alors, ce que j'avais appris, c'est que quand une émission était interdite, non seulement elle ne passait pas, mais il fallait faire très gaffe parce que si on laissait les bobineaux, le montage dans la salle de montage, ils venaient la nuit, ils récupéraient tout ça et dans certains cas, ils faisaient tout disparaître, ils détruisaient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un copain mixeur pour faire le mixage et enregistrer à la va-vite, hein, enregistrer le commentaire. J'ai écrit à toute vitesse, comme ça, sur un coin de table. Et j'ai volé la bobine. Je suis parti avec la bobine sous mon blouson et je suis parti avec pour la sauver, quoi. Ce qui fait que, alors ensuite, elle avait disparu, je savais plus où elle était, enfin bref. Et puis 30 ans après, je crois, les gens de Saint-Nazaire me disent, mais finalement, ce reportage-là, cette grève qui a été formidable pour nous, plus importante que celle de 68, est-ce qu'on pourrait pas le voir, enfin? Alors bon, j'ai réussi à remettre la main dessus. Et il y a eu une projection, donc 30 ans après, je crois, à Saint-Nazaire. Il y avait toute la ville qui était là. Ils avaient prévu une petite salle, ils ont dû passer dans une grande salle, parce qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Et tous ceux qui étaient les acteurs du film, sauf un qui était mort, étaient là. Et c'était évidemment très, très... très, très émouvant, et ils étaient ravis de voir ça. Et je leur ai dit, vous êtes très contents, mais moi je suis pas content du tout, parce que ça évoque pour vous une grande victoire, et pour moi ça évoque ma première grande défaite. Un film que j'avais fait avec enthousiasme et qui est toujours jamais passé à la télé, quoi. Voilà. Depuis 67, ça fait combien d'années?
Plus 50 ans.
Hein, ça fait plus de 50 ans. Mais il circule. Il circule dans les festivals, etc., sous le nom de 1er mai à Saint-Nazaire. Et bon, bah, c'est un document sur l'époque, quoi. Et puis, je crois que vous avez vu le film sur Lorraine Cœur d'Acier. Voilà. Alors ça, c'est une aventure, comme on en vit une fois dans sa vie, quoi. Assez extraordinaire. Il y avait à Saint-Nazaire d'énormes usines, des aciéries, usines...
Allons-y.
Oui, allons-y. Alors, pardon, j'ai dit Saint-Nazaire. Allons-y. Il y avait la sidérurgie, c'était un des grands pôles sidérurgiques. Et sur ordre un peu de l'Europe, il y a eu ce qu'on appelle le plan d'Avignon qui répartissait les choses. Alors bon, la sidérurgie avait décrété que c'était plutôt pour le Luxembourg, la Belgique, et que la France, ça serait plutôt... vous savez, les trucs de jeux là, et de pour les enfants, etc.
Parc de loisirs.
Oui, parc de loisirs, etc. Et la sidérurgie, elle pouvait disparaître sans problème. Et donc, ça a déclenché une révolte dans toute la région. Et pas seulement des sidérurgistes, mais de tout le monde, parce que tout le monde savait que c'est la sidérurgie qui faisait vivre toute la région. Et que aussi bien les commerçants que les enseignants, par exemple, étaient directement impliqués. Si la sidérurgie disparaissait, ça serait un désastre pour eux. Et donc, il y a eu de grandes manifs, des révoltes impressionnantes. Et alors, c'est l'époque des radios libres, des radios pirates, comme on disait. Et la CFDT, qui était c'est surtout la CGT et la CFDT qui organisaient la lutte. Et la CFDT avait eu l'idée très intelligente de créer une radio qui s'appelait SOS Emploi. Et ils s'étaient fait aider par une petite radio pirate qui s'appelait Radio Fessenheim, qui existait en Alsace, pas loin de là. Et alors, ils faisaient une petite radio, SOS Emploi. Ils enregistraient une cassette de une demi-heure, 40 minutes, pas tellement plus, parce que... pour pas laisser le temps aux flics d'arriver, faire de la goniométrie et puis découvrir où ils étaient, leur piquer leur matériel. Alors ils montaient au sommet d'un arbre, ils avaient un petit émetteur et ils diffusaient, et voilà. Alors évidemment, il n'y avait pas énormément de gens qui les entendaient parce qu'ils avaient un petit émetteur, mais quand même, ils avaient beaucoup de prestige, quoi. C'était Robin des Bois, quoi. C'était formidable. Et alors la CGT. Les gens de la CGT téléphonent à Paris, à la Confédération, la grande direction de la CGT, et disent « On veut notre radio aussi ». Et il se trouve que Dupont de son côté et moi du mien, on s'était beaucoup intéressés aux radios libres, aux radios pirates. Et moi, j'avais travaillé avec deux copines à préparer une radio locale à Montreuil. Pendant 3 mois, on avait bossé là-dessus, on avait les moyens de le faire, on avait créé toute une série d'émissions, des musiques avec un musicien, etc. Enfin, on était prêts, et au moment d'appuyer sur le bouton pour que ça démarre, la municipalité de Montreuil s'était dégonflée parce que c'était interdit. Et, voilà. Et donc, on s'était retrouvés comme ça. Et la CGT, qui connaissait ce travail que j'avais fait, lorsqu'ils ont eu cette demande de long oui, ils ont dit tu vas aller voir et puis voir avec eux ce qu'on peut faire. Et Jacques Dupont, de son côté, il bricolait aussi sur cassette, des trucs de propagande qui circulaient, quoi. Donc tous les deux, on était très branchés là-dessus. On part à Longwy. Et on est reçu par les responsables de la CGT, de l'Union locale et des syndicats de la sidérurgie. Italiens à 60% peut-être. Il y a eu une énorme immigration italienne dans la région. Grande gueule, forte tête, qui ne faisait pas trop de différence à l'époque entre le syndicat et le parti, CGT et Parti communiste. Ils étaient en général les deux en même temps, pas tous, mais la plupart. Et alors, donc, ils nous reçoivent, et on leur dit, voilà, vous voulez une radio libre, alors... nous, on pense que c'est pas la peine de refaire la même chose que la CFDT, parce qu'ils font ça très bien, mais c'est écouté par très peu de gens. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'acheter en Italie un émetteur très puissant qui arrose tout le bassin et d'avoir un lieu ouvert où les gens puissent venir, intervenir en direct à la radio ou téléphoner en direct. Assister aux émissions, voilà. Seulement, le problème, c'est que au bout d'une heure, les flics vont arriver. Ils vont tout casser. Alors là, ils réfléchissent même pas 10 secondes. Ils disent ça, ils viendront pas. Et effectivement, pendant un an et demi, les flics, dès qu'ils arrivaient à 5 km, on était prévenus, on le disait à la radio. Et dans les minutes qui suivaient, il y avait 500, 1000, 2000 personnes autour de la radio. Les flics n'ont jamais pu venir. Alors ils brouillaient par avion, par hélicoptère, par le pylône de diffusion de la télé, etc. Et puis il y avait des débrouilleurs. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais ils n'ont jamais pu venir. Et alors, deuxième chose qu'on leur dit, vous avez bien dit que vous vouliez une radio libre. Ben ouais. Ben voilà, le problème, c'est qu'une radio libre, c'est une radio de libre parole pour nous. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que cette radio, elle doit être une radio de lutte pour soutenir les luttes de la sidérurgie. Mais ce que nous vous proposons, c'est que ce soit une radio de libre parole. On n'arrête pas de critiquer les radios privées ou publiques qui pratiquent la censure. Nous, on va avoir la possibilité d'avoir la maîtrise d'un média. On ne va pas faire comme les autres. Ça serait idiot. On va faire la démonstration que ça peut exister, une radio de libre parole. Alors, il y a des choses qui vont se dire avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais vous êtes assez grand pour discuter. Soyez les meilleurs dans le débat. C'est la meilleure façon de faire progresser, avancer vos idées. C'est pas d'interdire aux autres de parler. C'est au contraire leur donner la parole et puis débattre avec eux. Alors ils ont dit, faut qu'on cause. Donc on est sorti, on est allé fumer des clopes dans l'escalier. Et on a attendu, on entendait des éclats de voix, etc. Et puis au bout de 10 minutes, ils nous rappellent. Ils nous disent, banco. Alors... Alors on dit, bon, bah alors, et puis alors ils disent, bon, alors comment ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, alors nous on dit, bah, ça veut dire que par exemple, toutes les formations politiques, syndicales, etc., associations, pourront s'exprimer dans cette radio. Alors ils disent, mais bon, les socialistes, bah oui, socialistes, bien sûr, pas la droite. Elle dit, mais si la droite se sent obligée de venir s'exprimer dans cette radio, c'est qu'on aura gagné. Et ils disent, alors je ne sais pas si pour vous ça évoque peut-être rien, mais à l'époque il y avait ce qu'on appelait les gauchistes, qui étaient soit trotskistes, soit pro-chinois, etc., qui étaient anarchistes, qui étaient un peu en bisbille avec les communistes. Ça bataillait, quoi. Alors ils disent, pas les gauchistes. Alors, faut savoir qu'on est en 79, là. Et bien, on dit, ben, bien sûr que si. Les gauchistes, c'est les plus proches de vous. Pourquoi ils n'auraient pas la parole? Alors, d'ailleurs, là, c'était avant qu'on sorte, qu'ils nous avaient demandé tout ça, et c'est là qu'ils avaient dit, bon, il faut qu'on cause. et qu'ils ont dit finalement banco. Et voilà, et ça a marché comme ça pendant un an et demi, jusqu'au jour où, tout à l'heure tu disais que j'ai été un peu mis à l'écart successivement par la droite, la gauche, la CGT, etc. Là c'était la CGT et le Parti communiste. On a pratiqué la liberté de parole absolue pendant un an et demi, absolue. Et gestion démocratique, il y avait... on était sous la direction de l'Union locale. Michel Olmy, qui est un militant extraordinaire, qui est resté un grand ami. Et on avait créé une association des amis de LCA qui gérait la radio. Et en collaboration avec la CGT. Et qui se débrouillait pour récupérer les fonds pour la faire fonctionner. Et alors nous, on était payés par La Vie Ouvrière, le journal de la CGT, ce qui nous permettait de garder notre carte de presse. Et les amis du LCA remboursaient chaque mois à la Vie Ouvrière, au franc près, tout ce que ça avait coûté quoi, pour nous payer. Et alors, la liberté de parole, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les pays socialistes, l'Union soviétique, la RDA, etc., où il se passait des choses pas terribles. Et évidemment, nous, on s'informait, on n'avait pas de dépêche, on s'informait en lisant les journaux le matin, en écoutant les radios, et on faisait ce qu'on appelle la revue de presse, qu'on faisait avec tous ceux qui avaient un peu de temps et qui participaient avec nous, qui téléphonaient, etc. Et on décortiquait les journaux. D'ailleurs, on essayait d'en faire quelque chose de pédagogique, un peu à leur apprendre à lire les journaux, à se méfier des gros titres et d'aller voir, chercher les petits entrefilets en page 8 ou 9 qui passent inaperçus à une première lecture, mais qui sont beaucoup plus importants. Enfin bref. Lorsqu'il y avait, il se passait des choses en Union soviétique ou en RDA ou autre, eh ben on en parlait librement et on disait ce qu'on en pensait. Voilà. Et on n'était pas, souvent pas d'accord du tout. Et alors là, il y a des communistes purs et durs qui téléphonaient à Paris, à la CGT, en disant « Mais c'est scandaleux, vos journalistes, là, ils insultent nos camarades soviétiques ou allemands, je sais pas quoi. » Et peu à peu, on a senti que, à la direction de la CGT, parce que il faut rappeler aussi une chose, c'est que quand LCA a été créé, c'était Georges Segui qui dirigeait la CGT, qui était un grand ami pour moi, et qui, lui, avait fait, en 78, un grand congrès de la CGT, qu'on appelle le congrès de l'ouverture, où il avait dit, voilà, il faut la démocratie dans le syndicat, il faut l'autonomie du syndicat par rapport au parti, et le syndicat doit faire son boulot de syndicat, et doit le faire dans la plus grande démocratie. Et il avait gagné largement, il avait une majorité pour lui. Et puis peu à peu, il y avait un autre grand dirigeant qui s'appelle Henri Krasucki, qui lui était vraiment bien dans la ligne, disons, et qui peu à peu, avec l'aide de Georges Marchais, avait réussi à marginaliser Georges Segui. Donc, au bout d'un certain temps, ça a commencé à se ressentir sur les radios de la CGT, parce que toutes celles ils en ont fait d'autres, et toutes les autres étaient sur le schéma. C'est une radio de la CGT, on n'entend que la parole de la CGT. Et on a été complètement isolés, quoi, peu à peu. Et puis un beau jour, eh bien, comme vous l'avez vu dans le film, vous l'avez tous vu le film, là, sur Laurent Cœur-d'Acier. Vous avez vu qu'à la fin, ils nous foutent dehors, nous, la direction de Paris, et ils arrêtent complètement l'expérience, et la radio continue sous la forme classique, la voix de la CGT, avec un tout petit problème, c'est que plus personne l'écoutait. Et qu'un beau jour, quand les flics sont arrivés, ben, il n'y avait personne pour la défendre, évidemment. Parce que ce n'était plus leur radio. C'était comme un tract radiophonique. Voilà. Et alors, l'histoire se termine quand même bien, parce que 30 ans après, 30 ou 40 ans après, je ne sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans, ça c'était en 80 quand elle a été arrêtée, et donc 20, 30, 5 ans après, la CGT, la direction de l'époque, a décidé que c'était Bernard Thibault qui était patron, a décidé que cette histoire de Lorraine Cœur d'Acier, ben, ça faisait partie du patrimoine de la CGT, qui avait eu à l'époque des conflits, que ça s'était mal terminé, mais que la CGT prenait à son compte ce qui s'était passé à l'époque, et on a pu faire ce, grâce à des jeunes qui avaient, qui, on avait tout gardé, on avait tout enregistré à l'époque, toutes les archives étaient à Bobigny, et une doctorante les avait mis la main dessus, elle les avait trouvés, avait prévenu des jeunes qui étaient des passionnés de radio libre, et ils ont fait un travail de 2 ou 3 ans qui a donné un coffret avec 5 heures d'archives de la radio, plus le film que vous avez vu, plus des textes, etc.
Plus un site web.
Oui.
Sur lequel on peut écouter aussi une partie des archives.
Voilà. Et ça s'appelle Un morceau de chiffon rouge. Et c'est, ça a été un peu une réhabilitation pour les gens de Longwy qui ont été... par exemple, le secrétaire de l'Union locale a été viré du jour au lendemain. Il s'est retrouvé cantonnier dans une municipalité, etc. Et il a été considéré comme un paria pendant toutes ces années, quoi. Donc pour lui, ça a été formidable, ça a été une réhabilitation. Voilà. Bon, ben, je crois que le mieux maintenant, c'est qu'on discute. Hein, si vous avez des avis, des questions...
La parole est à la salle, au ministère public, non à la salle. Alors, des questions, allez-y.
Pour revenir sur votre parcours, vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui d'être un journaliste engagé et d'être dans le système par rapport à votre éviction de France Télévisions et même de la CGT?
Ben, écoutez, d'après ce que les copains me disent, hein, les jeunes, ça devient de plus en plus difficile. Je plains les jeunes journalistes qui arrivent sur le terrain aujourd'hui, qui la plupart du temps vont rester précaires pendant des années. Alors les copains par exemple de France 2 me racontent des trucs qui sont sidérants. J'ai des copains qui sont caméramen, hein, JRI, journaliste reporter d'image, on les appelle dans les journaux télévisés. Et alors ils me racontent, le matin on nous envoie faire une interview, alors, avec un jeune journaliste. Et on part en voiture, et le jeune journaliste, on lui dit on lui dit par téléphone, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'y préparer. On lui dit, bon ben voilà, tu vas interviewer un tel, qui est dans l'actualité pour une raison ou pour une autre. Alors tu vas lui poser telle et telle question. On lui dicte les questions qu'il doit poser. Déjà, quand on est journaliste, c'est bizarre, hein, quand vous dicte les questions. Mais pas seulement les questions, les réponses aussi. Il faut qu'il te dise ça. On va te poser, et tu vas lui poser telle question, il faut qu'il te réponde telle et telle chose. Alors le journaliste, il note, et puis il y va, et il pose les questions voulues, et puis le gars, il téléphone après à son rédac chef, et il lui dit, ben, je suis embêté là, parce que le gars, il veut pas dire ce que vous voulez qu'il dise. Eh ben, comment ça se fait, ce con-là, il l'a dit ce matin dans Libé. Ben oui, mais il n'est pas d'accord avec ce que Libé lui fait dire. C'est pas du tout ce qu'il avait dit. Tu es un con, démerde-toi, t'es nul, etc. Vous voyez un peu dans quelle situation on se trouve, là. On n'est plus dans le journalisme, là. Vous voyez ? Donc ça devient très très compliqué. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui se battent pour faire leur boulot, hein. Vous avez peut-être vu des émissions d'Élise Lucet. Quand elle est sur un coup, elle ne lâche pas, hein. Elle va les emmerder. Elle a sorti des réunions de conseil d'administration, etc. Elle ne lâche pas le morceau. Mais c'est extrêmement rare, quoi.
Justement, Élise Lucet, elle est très critiquée. Des fois, on dit qu'elle va trop loin, qu'elle prend trop parti, qu'elle ne voit pas l'ensemble.
Oui, voilà, oui, c'est ce qu'on lui reproche. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est son boulot de journaliste. Voilà, c'est tout. Hein, elle essaye de dévoiler ce que par exemple, les grands patrons veulent cacher. Elle les oblige, elle leur demande des comptes, elle les oblige à justifier leur pratique. Et ça, c'est considéré comme exagéré. Ben non, c'est pas exagéré, c'est le boulot des journalistes. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les journalistes, ce sont des emmerdeurs. C'est ça leur mission, c'est d'emmerder le monde. Sinon, à quoi ça sert ? Rien du tout. Si c'est pour cajoler les puissants, ça n'a aucun intérêt. Donc, un bon journaliste, c'est un emmerdeur. Voilà. Alors, il faut assumer les conséquences. Hein. En général, c'est mal vu, les emmerdeurs. Et donc il faut se défendre. Et la liberté de la presse, qui est indispensable, il n'y a pas de démocratie sans la liberté de la presse, mais elle est à reconquérir sans cesse. Voilà, faut se battre tous les jours pour la défendre, cette liberté, au risque de se faire virer et dans certaines situations, dans certains pays, de se retrouver en taule ou de se faire liquider carrément. Il y a plein d'exemples.
Par rapport à ça, je vous passe la parole, hein, juste après. Pas de souci. Par rapport à ça, il y a quand même dans l'actualité effectivement deux cas un peu peut-être emblématiques de ça, mais qui nous posent question. C'est, tu l'as cité d'une part, le cas par exemple d'Élise Lucet, qui arrive quand même à faire des trucs assez incroyables. Ça passe à l'antenne, on se demande encore comment, hein, d'ailleurs. Pourquoi cette émission tient toujours ? Et puis on voit par exemple ce qui se passe avec Aude Lancelin et le fait qu'elle soit quand même virée pour des trucs. Voilà, pour en gros, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait rentrer la parole de Badiou dans son ancien canard, dans son ancienne revue, enfin des choses qui paraissent quand même relativement étranges. Et donc on voit bien qu'il y a, que c'est un système qui n'est pas, en quelque sorte, qui est instable dans son rapport au journalisme et à la liberté de parole, etc. C'est-à-dire que d'un autre côté, il y a quand même des choses qui restent. Il reste possible d'avoir une parole critique dans le paysage audiovisuel français à l'intérieur des grands médias, et en même temps on voit bien que sous certains aspects, par ailleurs, ça casse, ça dégage, ça licencie, ça. Et donc est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur comment se fait-il qu'Élise Lucet parvienne encore, à partir de quoi ça peut, le rapport de force qu'elle arrive à construire lui permet encore de faire les émissions qu'elle fait. Moi, ça me semble en fait très très étrange qu'elle se soit pas faite virer depuis un petit moment, quoi.
Ben, c'est difficile, hein, parce que elle s'est d'abord fait connaître comme présentatrice, est devenue une des vedettes des médias, du paysage audiovisuel, et vu son caractère, la virer, c'est provoquer un scandale, quoi. Elle arrive à les tenir en respect, quand même. Alors oui, pourquoi elle y arrive et pas d'autres ? Ben, c'est parce qu'elle se bat, quoi. Elle ne laisse rien passer. Et puis elle se bat bien, quoi. Quand elle sort une affaire, c'est une vraie affaire. Il ne faut pas déconner dans ces cas-là. Hein. Si jamais tu te trompes, t'es foutu. Or, elle sort des affaires qui sont indiscutables. Et on ne peut pas dire qu'elle soit partiale, puisqu'elle donne la parole à tout le monde, et c'est eux qui refusent de parler la plupart du temps. Ils ne veulent pas s'expliquer sur ce qu'ils font. Donc elle est difficile à manipuler, quoi. Elle est très difficile à manipuler. Non, moi j'avoue qu'elle m'épate, hein, c'est sûr. Et puis bon, il y a des gens qui, je trouve, qui, il y a pas qu'elle. Il y a, par exemple, Delahousse, comme présentateur, je trouve que bon, il n'y a pas photo avec Pujadas, par exemple, hein, ou Pernaud. Bon, et non seulement il fait un peu mieux son travail, mais en plus il protège des gens qui font des reportages dans les émissions qui suivent son journal là, du samedi. Ils font du vrai travail de journalistique indépendant. Donc, bon, en gros, c'est toujours pareil, quoi. Hein, on n'est pas libre comme ça dans l'abstrait. On est libre si on conquiert sa liberté, quoi, si on se bat pour sa liberté, avec les risques qu'on court en le faisant. Voilà, c'est tout. Mais le pire des risques, c'est celui de ne plus se regarder dans la glace. Hein. Ça, c'est le pire des risques. Hein. Ces journalistes qui, à force de se prosterner, finissent par brouter la moquette. Et qui n'osent plus se regarder dans la glace pour se raser le matin. Ils ont honte de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont devenus. Donc, les autres qui se battent et qui en souffrent, qui en payent le prix, au moins, ils n'ont pas honte d'eux-mêmes, quoi. C'est quand même, finalement, ce qu'il y a de mieux, quoi.
Et vous avez parlé par rapport au 1er mai à Saint-Nazaire, que c'était votre première grande défaite. J'aurais voulu savoir, dans tout votre parcours journalistique, qu'est-ce qui a été pour vous votre plus grande défaite? Est-ce que ça a été mai 68 où vous êtes fait licencier?
Alors mai 68, c'est une défaite collective, parce que ça a été quelque chose de formidable, mai 68. Hein, en soi, ça a été vraiment fabuleux. Moi, je me souviens toujours, j'étais en tournage... avec Maurice Felvic, on était en tournage, on tournait un reportage magazine sur De Baptiste, qui était le patron de la FNSEA à l'époque, le syndicat agricole. Et puis en plein milieu, la grève, on a appris que la télé se mettait en grève, donc on a évidemment tout de suite participé à cette grève, on a participé à la manif, il y a eu une grande manif à Paris, mais il y en a une dans toutes les villes, donc à Clermont-Ferrand. Et puis le soir, on est rentré à Paris et on a découvert Paris en 68. C'était quand même fabuleux, quoi. C'était extraordinaire. Alors, on s'est retrouvé dans les studios de l'ORTF où il y avait tout le monde, toutes les professions, toutes les c'est Jean-Marie Drault qui tenait le crachoir, là, qui était un personnage avec une autorité, grand réalisateur de télé, les Heures Chaudes de Montparnasse. Et tout le monde était là. Et il y avait des duplex avec les rédactions des grandes villes françaises. France 3, ça s'appelait FR3 à l'époque. Ouais, voilà. Et là, on voyait que tout le monde, la grève qui prenait partout, quoi. Et puis la radio, la grève dirigée par Édouard Guibert. Et donc, tout le monde s'est retrouvé dans les jours qui ont suivi à la maison de la radio, avec des réunions qui duraient toute la journée, où il y avait tous les syndicats réunis, toutes les catégories, etc. Et là, on a refait le monde, notre monde, c'est-à-dire la télé, la radio. On a proposé des nouveaux statuts, beaucoup plus démocratiques, etc. Et ce qu'on avait mis en place, c'était formidable, quoi. C'était merveilleux. Et puis bon, arrive le 13 mai, la grande manif contre-révolutionnaire, je dirais, hein, organisée par De Gaulle, Malraux et compagnie. Et là, du jour au lendemain, eh bien, la répression est tombée. Et ça a été une des plus grosses répressions qu'on ait connues. les journalistes de télé ont particulièrement morflé, si j'ose dire, d'autant plus que le pouvoir les considérait comme des serviteurs, quoi. Et tout d'un coup, ils se révoltent. Pas seulement les fortes têtes qu'il y avait parmi eux, mais tout le monde, tous se disent « Mais oui, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, de faire si mal notre métier. » Et donc, ça, le pouvoir leur a pas pardonné. Et donc, il y a eu une centaine de journalistes statutaires licenciés, purement et simplement, dont des grands comme Frédéric Potcher, par exemple, qui était quand même une des grandes voix de la radio française. Hein, quand les procès racontés par Potcher, c'était incroyable. Sans statutaire, et puis, je ne sais plus, une trentaine de pigistes, dont moi, ou Roger Louis, par exemple, qui ont été sur des listes noires, qui étaient... ils ne pouvaient pas nous virer, puisqu'on n'était pas statutaire. Mais on était engagés à l'émission, quoi. C'était pigiste. Mais ils avaient fait une liste noire qu'ils avaient fournie à tous les producteurs avec interdiction de faire travailler tous les gens qui étaient sur cette liste. Quoi. Voilà.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en 68, ça a permis d'améliorer la société, on va dire, enfin, l'organisation de la société médiatique actuelle qui n'a pas vraiment changé, on est toujours sur le contrôle, comme vous l'avez dit, du 440. Donc est-ce que vous pensez que mai 68, ça a vraiment aidé au final à changer les choses, ou ça a été anecdotique sur le moment, ça a été incroyable, mais que pendant quelques années, et après c'est revenu comme c'était avant?
Non, c'est pas quelques années, c'est quelques mois, quoi, quelques semaines. Et puis après, la répression, et c'était pire, quoi, hein, parce que pendant un certain temps, le journal était fait par ce qu'on appelait les jaunes, ceux qui avaient continué à travailler alors que toute l'ORTF était en grève. Alors après, il y a eu une première embellie, c'est que il y a Chaban Delmas qui est devenu Premier ministre. Et à un moment qui a dit, bon, il faut arrêter les conneries, on peut plus, on fait un journal, on dirait Radio Moscou, c'est pas possible, c'est plus un journal télévisé, c'est n'importe quoi. Et donc il a nommé Pierre Desgroupes directeur de l'information. Et pendant quelques temps, il y a eu un semblant un début de liberté d'expression au journal télévisé, mais ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré. C'est plus fort qu'eux, quoi. Les pouvoirs, ils sont tous pareils. Ceux qui se disent de gauche, ceux qui sont de droite, quand ils ont le pouvoir, il ne faut pas que ces journalistes les emmerdent, quoi. C'est nous qui vous nourrissons, hein. C'est nous qui vous payons. Donc, vous n'avez pas à nous emmerder comme ça, quoi. On a sans arrêt ce problème. Le problème simple, que les journalistes, les journaux ne leur appartiennent pas. Voilà. Sauf exception. Par exemple, Le Canard Enchaîné appartient à ces journalistes. Ce qui fait que voilà un journal qui on en pense ce qu'on veut, on est d'accord ou pas avec certaines choses, mais enfin, c'est un journal qui respire la liberté d'expression, quoi. Voilà. Vous avez Le Monde Diplomatique, c'est pareil. Vous avez Mediapart, vous avez Politis, on a vite fait le tour. De son côté, l'Huma Dimanche et l'Huma, La Croix. Tout le reste, c'est dans les mains soit du pouvoir, soit du pouvoir politique, soit du pouvoir financier. Et souvent les deux. Mais c'est quand même incroyable que la plupart des journaux appartiennent au patron du CAC 40. Genre Dassault. Ça tient pas debout. quelques journaux éventuellement, mais enfin que à la Libération, c'est pas du tout ça qui était prévu. Hein. C'était des organes de presse indépendants, autonomes, et avec un financement public. Et ben on arrive au contraire, on arrive à une situation où la plupart des journaux quotidiens, hebdomadaires, des télés privées appartiennent à des milliardaires. C'est 1% de la population qui possède 99% des richesses.
Et à votre avis, pourquoi le financement public n'a pas fonctionné? Personne n'est pas assez intéressé par la chose en question ou...
Ben, c'est que on a affaire à des politiques qui ne respectent pas leur parole, quoi. La plupart du temps, quand ils sont dans l'opposition, ils tempêtent contre la censure, etc. Mais dès qu'ils sont au pouvoir, hop, ils en font pareil. C'est ça qui est plus acceptable, quoi. Ça tient pas debout. C'est pour ça que nous, on disait à Lorraine Cœur-d'Acier, bon, ben là, ça dépend de nous. Ne faisons pas comme les autres. Montrons qu'on peut diriger un média en toute liberté et accepter la parole de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et lui permettre de s'exprimer. Eh ben, c'est possible. Ça marche très bien. Ça plaît beaucoup aux gens. Mais manque de peau, ça plaît pas aux grands patrons et à la plupart des dirigeants qui, en général, ont les grands patrons leur rendent des services et en échange, bah, il faut que... Vous voyez ce que je veux dire, hein.
Je voulais de répondre un peu à ma question, c'était justement sur le fait qu'une radio comme ça, sur le modèle de Lorraine Cœur-d'Acier, sur la liberté de parole absolue, la liberté d'expression qui est encore transposable aujourd'hui, et vous venez d'y répondre sur le fait que les politiques n'aiment pas du tout ça. Est-ce que c'est plus une question d'argent, une question d'image? Est-ce que c'est la société qui veut ça, le système?
Oui. Il y a un truc pour aller dans ce sens-là, il y a quelque chose quand même de très étonnant. Effectivement, je pense par exemple au film Les Nouveaux Chiens de Garde, il y a quelques entretiens avec Pujadas, avec Guiz Benon, bien évidemment l'époque de la censure, où comme tu racontais à l'instant, effectivement on pouvait récupérer les bandes, où on venait prendre les ordres, etc. C'est terminé, nous sommes libres, etc. Mais il y a un truc très simple, c'est de voir le ton, en fait, des informations qui étaient produites, et notamment, par exemple, le ton des reportages que tu pouvais faire, toi, il y a peut-être 30 ans de ça, à la télévision. Je me rappelle notamment d'un reportage que tu avais fait complètement ironique sur la disparition de la première classe dans le métro, qui était un truc complètement au second degré, mais d'une prise de position extrêmement forte. Et on se dit, ce type de ton, aujourd'hui, même si la censure telle que tu la décrivais auparavant, d'une censure, on va dire, directe, n'existe plus, certes, mais il en existe une autre, beaucoup plus insidieuse, qui empêche même que ce type de document très engagé, très ironique, etc., puisse être diffusé, c'est-à-dire ce que tu te permettais il y a 30 ans, je pense qu'aucun journaliste télévisé, mis à part quelques-uns, dont Élise Lucet, etc., peuvent se permettre aujourd'hui. Le truc ne passerait jamais. Ou quand Pierre Zarka était là, on cherchait tous les deux le nom du coup, son nom, je l'ai noté parce que ça, il m'échappe à chaque fois. Raoul Sangla. Ce que Raoul Sangla avait fait comme essai, un dispositif finalement innovant de production de l'information du JT, où finalement le JT était fait par les gens, etc. On se dit bien évidemment, on n'arrête pas de parler du participatif en ce moment, etc., de la démocratie participative, notamment avec Internet. Et d'ailleurs, une des solutions, c'est peut-être, parce qu'on parle beaucoup des médias dominants, papier, ou enfin, des gros médias, il y a peut-être quelque chose à aller voir du côté d'Internet. Et toutes ces expérimentations, la façon Sangla, ou les documents que tu pouvais réussir à passer quand même à l'antenne à l'époque, il me semble que c'est tout simplement plus possible. Oui, finalement, il y aurait bien une détérioration, malgré le fait qu'on ait dépassé cette censure du REC, une espèce de détérioration de, au niveau des contenus, notamment de ce qu'on peut se permettre. En fait, la vérité, c'est qu'on ne peut plus se permettre grand-chose, quoi.
Oui, il n'y a plus besoin de censurer parce que ils mettent en place des gens qui s'auto-censurent et qui censurent leurs équipes, quoi. Donc, ce genre de reportages n'ont pas à être censurés, ils ne sont pas faits, tout simplement. Ils ne sont pas faits. On ne peut même plus les faire. Avant, on avait au moins la possibilité de les faire et de se battre pour les défendre, pour qu'ils passent à l'antenne, quoi. Et à certains moments, c'était possible, à d'autres pas, mais bon, là, ils ne sont plus faits du tout. Quand on voit les journaux télévisés, c'est un peu catastrophique, quoi.
Oui, c'est parfois très accablant.
Ouais.
Je vous en prie.
C'est pas vraiment une question, c'est plus pour réagir sur ce que vous êtes en train de dire. Je suis pas totalement d'accord. Je pense qu'il y a encore... j'ai une émission en tête, qui est Quotidien, bon, et anciennement le grand journal, le petit journal, avec Anne Martès, où au final, on a quand même des contenus qui se rapprochent un peu de ce que vous dites, où ils vont emmerder Nadine Morano au Parlement européen, en la harcelant pour avoir pour qu'elle leur réponde, un truc comme ça. Ils font souvent des petites enquêtes en souvent bien second degré aussi. Je pense que ça se fait aussi, comme vous dites, on va le retrouver certainement plus avec Internet aussi, puisque les gens ne peuvent pas vraiment censurer Internet. C'est compliqué.
Oui, mais comme vous avez remarqué, Canal Plus a été racheté par un certain Bolloré, et que Barthès, il est allé s'amuser ailleurs. Hein, et, voilà, c'est fini, ça, tout ça. Hein, c'est ratiboisé complètement. Ça a été supporté pendant un temps, quoi. Voilà. Ça faisait partie du paysage, mais même ça, c'est devenu insupportable. C'est vrai que c'était une espèce d'exception, quoi.
Mais les gens s'en rendent compte aussi, je pense. Enfin, moi, j'ai l'impression de plus en plus que les gens se rendent compte que, enfin, vont boycotter les produits Bolloré, quoi. Et il y a plein de gens qui ne regardent plus Canal parce que ils sont pas d'accord avec les choix de l'émission. Ah,
mais
les gens ont envie aussi que ça revienne.
Ouais, apparemment, ils s'en foutent. Et bon, ben voilà, il faut arriver à renverser la table, quoi. Mais ça n'en prend pas le chemin. Ça n'en prend pas le chemin. Parce que qui va être au pouvoir l'année prochaine, hein, c'est des gens qui ne sont pas des grands amateurs de liberté d'expression. Hein.
Oui.
Parlez plus fort, je vous entends mal.
J'ai deux questions à vous poser d'ordre différent. Première question, qu'est-ce que vous pensez de la grève qu'a effectuée ITV durant plusieurs semaines? Les journalistes souhaitent reprendre l'antenne avec une liberté d'expression, une liberté d'exercer leur métier pleinement. Et on a pu voir comme impact sur cette grève que le rédacteur en chef de ITV a démissionné, Olivier Le Foll. Et j'ai une seconde question à vous poser, d'ordre vraiment différente. Nicolas Sarkozy, lors d'un débat très récent, s'est offusqué lorsque David Pujadas a parlé lors du débat d'une affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy était impliqué. Et l'ex-président s'est offusqué en disant que sur le service public, on ne pouvait pas parler de ce type d'affaire. Il a complètement, il a vraiment mal parlé à Pujadas. J'ai trouvé ça limite.
C'est bien la première fois que Pujadas énerve Sarkozy. Mais il ne pouvait pas ne pas en parler, parce que tout le monde a vu ce document, c'est-à-dire l'interview de Takedine, qui explique comment il avait apporté des valises pleines de bifetons, d'euros, en grosse coupure, pour la somme totale de 5 millions, pour financer sa campagne en 2007, ce qu'on savait, mais là vraiment tout concorde, tous les témoignages concordent, les fils de l'ancien président de la Libye, comment il s'appelle déjà ?
Kadhafi.
Voilà. Qui, comme par hasard, a été liquidé parce que ça aurait été embêtant quand il y a eu cette guerre catastrophique organisée par Sarkozy et son ami BHL, qui a foutu le feu à toute l'Afrique, tout le nord de l'Afrique. Hein. C'est une catastrophe, carrément, quoi. Ils ont fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour qu'il ne parle pas, c'est de le liquider. Et ce que dit Takieddine, franchement, il y a peu de gens qui n'y croient pas. Hein. Les journalistes sont à peu près tous d'accord pour dire que c'est une réalité qu'ils savaient, mais qui était difficile à prouver. Et évidemment, Sarkozy n'a pas du tout envie qu'on lui en parle. Évidemment. Mais je pense que il trimballe, parce qu'il a toute une... Il a toute une cuisine aux fesses de casserole, hein, Sarkozy. Mais là, c'est plus qu'une casserole, quoi. C'est une énorme marmite. Et ça, à mon avis, il va avoir du mal à s'en sortir. Il va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Parce que ça va continuer. Hein.
Et
ITélé, c'est
News maintenant.
ITélé, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est l'histoire de... Comment il s'appelle Morandini, qui est quand même mis en examen pour quelque chose de plus que grave. Hein, vous êtes au courant. Bon, une histoire comme ça, au minimum, on dit, bon, tu vas te mettre au vert en attendant que ce soit jugé, que tu aies fait la démonstration de ton innocence, parce que là, franchement, non, c'est un copain de Bolloré, lui aussi, hein, c'est un copain de Bolloré, et Bolloré s'énerve, ne veut rien savoir, etc. Mais bon, apparemment, il a fait marche arrière un peu, là, non ? J'ai pas lu le détail. Ils reprennent le boulot dans quelles conditions ils ont
une charte qu'ils n'obligent pas à travailler avec Morandini.
Ouais.
Bah, s'ils veulent pas, ils travaillent plus. Ouais. Il y a quand même un tiers de l'effectif qui a démissionné.
Ouais. Bon, de toute façon, les pauvres, ils ont intérêt à chercher du boulot ailleurs, hein, parce que ça va pas être terrible l'ambiance. Non, c'est scandaleux tout ça.
Vous avez écrit un livre, Ma voix ouvrière. Vous avez savoir, vous ne l'avez pas écrit tout seul, vous l'avez écrit avec quelqu'un d'autre. Et j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez publié ce livre-là. Pourquoi vous l'avez écrit ?
Le livre sur Bernard Thibault ?
Oui, c'est ça.
Oui, en fait, c'est une interview de Bernard Thibault que j'ai faite avec un camarade Thiaville, Pierre-Marie Thiaville. Qui était journaliste comme moi à France 2, qui lui n'est pas membre de la CGT, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il le fasse avec moi. Et donc la CGT, Thibault et son équipe m'avaient demandé simplement de l'interviewer. Quoi, voilà. Et je l'ai fait parce que. J'avais de la sympathie pour ce personnage, que j'ai toujours d'ailleurs, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit et fait. J'assume.
Allez-y.
Vous avez fait un reportage sur les immigrés, les femmes et les ouvriers. Déjà, pourquoi ça t'intéresse et est-ce que vous êtes intéressé à ça? Parce que selon vous.
Excusez-moi, je vous entends mal.
Ah, vous avez fait des reportages sur les immigrés, les ouvriers et les femmes aussi. Pourquoi déjà cet intérêt pour ces personnes-là? Et est-ce que c'est parce que pour vous, les journalistes traitaient mal ces questions-là?
Oui, un peu, c'est un peu tout ça. C'est aussi, comment dire, moi je viens de ce milieu-là. Hein, mes parents étaient des petits paysans, résistants, Je suis né pendant la guerre, en 40, donc je suis arrivé à la conscience, si vous voulez, dans l'ambiance incroyable de Grenoble entre 40 et 44. C'était le Far West, hein, il y avait des groupes de résistance incroyables qui rendaient la vie impossible aux miliciens, aux collabos, aux Allemands, etc. La ferme de mes parents était un point de chute de plusieurs groupes de résistance. Donc je suis né là-dedans, si vous voulez. Ma famille, les amis de ma famille étaient soit des petits paysans, soit des ouvriers, soit les deux, ouvriers paysans. Moi, j'étais, par exemple, au collège, la moitié du collège à Grenoble avait des noms italiens. Il y a beaucoup d'immigration italienne, espagnole aussi, nord-africaine. Donc c'est les miens, tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à un métier où on peut donner la parole aux gens. Donc j'ai toujours pensé que mon rôle était celui-là, de donner à la parole à ceux qui l'ont pas. Voilà. Permettre de leur rendre leur droit à la parole et leur droit à l'image. Voilà. Parce que les ouvriers, par exemple, quels qu'ils soient, français ou immigrés, avaient disparu du paysage. Alors qu'il y a une époque où, dans le cinéma français, par exemple, il y a des grandes figures d'ouvriers, jouées par des gens comme Gabin, par exemple. Avant la guerre, il y a des films formidables avec Gabin qui a des rôles d'ouvriers, mais qui sont. Mais finalement, peu à peu, ils n'avaient plus droit ni à la parole ni à l'image, les ouvriers. On n'en parlait plus. Donc l'idée, c'est de dire, mais attendez, eux aussi, ils ont des sentiments, ils ont des histoires d'amour, ils ont des rêves, etc. Et qui valent bien ceux de la petite bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie. Donc moi, je viens de là, et ben, c'est les miens, et ben, je vais me battre pour qu'on leur rende leur droit à la parole et leur droit à l'image.
Voilà. Par les journalistes d'aujourd'hui.
Ben, ça dépend, hein, ça dépend. Ceux qui font leur boulot, parfois il y a des choses qui sont faites. Il y a des journalistes qui trouvent un créneau pour faire un reportage intéressant sur ce qui se passe dans une lutte ouvrière contre la fermeture d'une usine, par exemple, etc. Enfin, ça n'a pas bonne presse, tout ça. C'est pas à la mode, quoi. Hein, c'est. La mode, c'est plutôt des espèces d'experts comme le chauve, là, je ne sais plus comment il s'appelle, sur France 2, là, comment il s'appelle déjà celui-là, hein, qui fait l'expert économique. Hein,
c'est ça. Ouais.
L'anglais, voilà, l'anglais. Et qui est là pour vous expliquer qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Hein, c'est comme disait Thatcher, Tina, there is no alternative. Alors ça, je trouve ça insupportable, quoi, insupportable. C'est comme ces débats, vous avez des débats entre gens qui pensent la même chose. Alors évidemment, ils vont pas se bouffer le nez, hein, ils se font des courbettes, des politesses, et après vous, monsieur les Anglais tirez les premiers, et il n'y a pas de vrai débat. La plupart des temps, comment il s'appelle là, c'est dans l'air, ou je sais pas, tout ça, Vous avez des libéraux de droite ou d'extrême droite et des libéraux de centre droit, quoi. Alors évidemment, ça fait pas des étincelles, hein. Et ils sont tous d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que le libéralisme, il n'y a pas mieux, quoi. Et puis les services publics, eh ben ça coûte cher. Il faut les supprimer tant qu'on peut. Les fonctionnaires, il y en a beaucoup trop, etc., etc. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de journaliste de balader un peu à droite et à gauche dans le monde. Bah, la première chose que vous constatez, c'est que les pays où il n'y a pas de services publics dignes de ce nom, comme en France, où il n'y a pas de fonctionnaires en nombre suffisant, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il n'y a rien qui marche. Et le refus de remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite, mais c'est scandaleux, c'est presque un crime. On a la chance, nous, d'avoir eu, en 1944, un moment de grâce, hein, où tous les mouvements qui sortaient de la résistance, de droite et de gauche, avec De Gaulle, ont été d'accord pour fabriquer un certain nombre de choses, comme par exemple la sécurité sociale. Hein. Il y a d'ailleurs un film que je vous recommande qui s'appelle La Sociale, qui est en train de sortir là actuellement, et qui raconte comment un ministre communiste, Ambroise Croizat, et un haut fonctionnaire gaulliste, Larocque, ont conçu la sécurité sociale dans les années 44, 45, 46. Et c'est un truc que le monde entier nous envie, la sécurité sociale. Et vous avez des gens, comme certains dirigeants du MEDEF, qui n'ont qu'une idée, c'est de la foutre en l'air. Et qui disent tout ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance en 44, il faut tout foutre ça en l'air. Et la sécurité sociale, ça vaut pas un clou. Il faut des assurances privées. Les assurances privées, c'est pas fait pour aider les gens, c'est fait pour faire gagner du fric au patron des assurances. La sécurité sociale, c'est l'inverse. C'est quelque chose de collectif. Tout le monde participe au financement, malade ou pas malade, et tous les malades en profitent, tous les accidentés, etc. Il n'y a pas mieux comme système. C'est un système humain, solidaire, et beaucoup moins coûteux que tous les systèmes privés. Voilà. Donc ça, il faut défendre ça comme la prunelle de nos yeux. C'est super important. Malheureusement, c'est en train de tout être démantelé. Et quand on écoute là les candidats aux prochaines élections présidentielles, bah, c'est clair que s'ils le peuvent, ils vont tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. Alors, quand on voit la montée de la pauvreté, de la précarité, les inégalités, c'est quand même incroyable, les chiffres des inégalités. Est-ce que vous savez, par exemple, que 67 personnes possède dans le monde plus de la moitié, autant que la moitié de l'humanité. 67 personnes d'un côté ont un patrimoine qui est équivalent au total du patrimoine de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains. C'est incroyable, ça ne peut pas durer. La Révolution française, elle s'est faite pour beaucoup moins que ça. C'est inouï de telles inégalités, de telles injustices. Et ils arrivent tellement à bourrer le crâne des gens avec leur télé de merde, des télé-réalités et tout ça, que les gens s'en rendent même plus compte à quel point c'est insupportable, c'est scandaleux, ça ne peut pas durer. Et ce qui est embêtant, c'est que ça peut produire n'importe quoi. Ça peut produire une véritable révolution qui rétablissent plus de justice, mais ça peut aussi provoquer le fascisme. Hein, vous avez vu, là, les deux blondes, là, elles attendent, elles sont là, hein, sur les starting blocks. Alors si jamais les Français se laissent avoir comme les Américains se sont laissés avoir par Trump, bonjour, hein, tout le monde aux abris, hein. Excusez-moi, au milieu, j'ai pas compris.
Je disais, avec l'apparition d'Internet, est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de journalistes libres? Et aussi, est-ce que vous pensez d'Internet, si c'est bien, ou si au contraire, ça part un peu dans tous les sens, avec tous les sujets qu'on peut avoir et les métiers, etc.
Moi, je vous dirai jamais qu'Internet, c'est bien ou pas bien. C'est des tuyaux, Internet. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on met dedans. Alors, le problème d'Internet, c'est que ça permet tout et n'importe quoi, le meilleur et le pire. Voilà. Parce que ça permet aussi toutes les manipulations, les opérations de propagande sournoise, etc. Donc il faut beaucoup s'en méfier, je pense. Il faut beaucoup s'en méfier. Il faut pas. Si les gens étaient plus formés, si vous voulez, ils se laisseraient moins avoir. Ils diraient mais non, ça ne tient pas debout. Alors que là, on ne leur apprend pas à se méfier de ce qui circule comme information et qui parfois sont des pures manipulations. C'est des gens qui inventent des complots, etc. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc je pense qu'Internet, comme l'information radio, télévisée, il faut s'en méfier, quoi. Faut être très, 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 très prudent, très, très critique, etc.
Et est-ce que tu ne crois pas, malgré tout, que les seuls espaces... Par exemple, je suis étonné qu'il n'y ait pas beaucoup plus de questions que ça sur LCA, par exemple, qui est quand même... vous en avez en réserve, c'est ça. Qui était quand même un espace de production d'une parole tout à fait... tout à fait nouveau, novateur, intéressant, avec, comme tu l'as rappelé, des minorités. Vous parliez tout à l'heure des immigrés, des femmes, etc. Avec des émissions, il y a ça dans le film, très étonnant, par exemple, des émissions confiées à des enfants. Confiées à des groupes de paroles féministes, confiées à des immigrés, avec une partie des
dans
émissions.
Dans leur langue.
Voire toutes les émissions en langue arabe, par exemple, etc. Des choses qu'on n'imagine pas. On voit quand même que dans le paysage audiovisuel ou médiatique mainstream actuel, ces espaces-là de production d'une parole, on va dire de minorité active, il est quand même minoré, voire complètement invisible. Or, sur Internet, c'est quand même un espace où ces minorités actives-là peuvent prendre la parole, peuvent retrouver une autonomie. Et il me semble qu'effectivement, enfin, tu as raison de souligner, de dire qu'Internet, finalement, n'est que le reflet de ce qui existe. On y trouve le meilleur, le pire, etc. Mais je pense qu'on a intérêt aussi à montrer que ces espaces alternatifs de production de l'information, d'une communication différente, etc., trouvent un relais et une structure quand même ad hoc dans Internet. C'est-à-dire les conditions de possibilité offertes, plutôt que les conditions de possibilité, les obstacles qui sont mis à la production d'une telle parole dans un espace médiatique plutôt dominant, tombe partiellement avec Internet. Et j'en veux pour preuve, par exemple, tout ce qui s'est passé durant la dernière... deux exemples. Un exemple qu'Acrimed aime beaucoup, qui est le référendum en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Tous les médias sont pour le traité constitutionnel européen, dans une très grande majorité, décortiquage des émissions chaîne par chaîne à l'appui, d'accord. Et l'espace de production du nom ou de discussion du nom, c'était bien l'espace d'Internet. Alors ça ne veut pas dire que c'est grâce à Internet que le référendum s'est passé tel qu'il s'est passé, etc. Parce qu'il y a eu une mobilisation forte, militante, associative, etc. aussi. Mais il y a effectivement, on peut quand même présager d'un poids quand même minimal d'Internet là-dedans. Autre exemple, c'est celui du dernier mouvement social, où on a vu ce qu'était la couverture du mouvement social, c'est-à-dire telle qu'elle est toujours habituellement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout des causes, on parle des effets, du dérangement que ça procure,
des incidents, des violences,
fabriquées, des cortèges de tête, de ces terroristes qui viennent attaquer l'hôpital Necker pour enfants, etc., etc. Et face à ça, il y a quand même un tas de médias de lutte qui se sont créés à ce moment-là ou qui existaient auparavant. Je pense à Révolution Permanente, je pense à Paris Lutte Info, à Taranis News, etc. Qui ont permis à ce qu'une parole, et que la parole justement des manifestations, soit produite, ait une place dans un espace public qui n'est pas celui de l'espace public dominant, mais qui est un espace public qu'on pourrait qualifier d'oppositionnel si on voulait... employer les concepts de NECT ou de l'espace public subalterne, si on voulait utiliser Fraser, mais un espace qui s'oppose en quelque sorte à l'espace médiatique dominant. Et je trouve que Internet joue son rôle là, de manière très forte dans cette position-là, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce qui reste du mouvement des radios libres comme radio de combat? Enfin, zéro. C'est-à-dire des radios Lorraine-Cœur d'Acier, au jour d'aujourd'hui, et en dehors d'un contexte de lutte précis, ça n'existe pas. Moi, j'en connais pas.
Quelques radios locales, mais pas beaucoup. Pas beaucoup.
Ah, ouais. Radio Libertaire.
Ouais.
Quelques trucs comme ça, mais.
Et dans Paris, il y a quelques radios locales, dont celle qui est faite par un de ceux qui ont travaillé sur les archives de Lorraine Cordassier, Pierre Baron. Et il y en a une autre, il y en a un autre, ils étaient trois, hein, il y en a un autre qui est prof à Hoche et qui fait une radio aussi dans son coin. Il y a quand même pas mal de radios locales, mais à qui on ne donne pas de créneaux importants, quoi. C'est ça aussi le problème, parce que les créneaux sont bouffés par les radios commerciales. Oui, Internet, bien sûr, ça peut être une arme formidable. Mais bon, l'avantage d'une radio comme Lorraine Cordassier, c'est que c'est collectif, quoi. C'est pas des gens qui balancent leurs trucs comme ça, alors le pire est le meilleur. C'est un collectif qui réfléchit ensemble, quoi, hein, qui communique. Internet, c'est un peu chacun dans... Moi, j'avoue, quand je suis dans le métro puis que je vois tous ces gens qui sont dans leur... avec leurs écouteurs et puis leur écran.
Attention, on parle de vous.
Etc. Moi, ça me fout la trouille, quoi, une société comme ça. C'est incroyable, quoi. Parce qu'ils voient pas ce qui se passe sous leur nez. Et ils vont chercher du rêve, je sais pas quoi. Et ils sont plus. Ils sont plus dans la vie collective, quoi. Ils sont plus dans la... Et donc, c'est difficilement dans la solidarité. Alors, c'est compliqué, parce que à droite et à gauche, il y a plein d'associations. Par exemple, il y a une vie associative merveilleuse. Heureusement, par exemple, qu'il y a des associations pour aider les étrangers qui fuient la guerre, la misère, la torture, etc., et qui se retrouvent devant un mur ou qui meurent noyés en Méditerranée. C'est un véritable scandale, ça, quand même. Et heureusement qu'il y a une multitude d'associations qui font un travail merveilleux pour les aider, pour les défendre, les aider à connaître les lois françaises, etc., et les avantages qu'ils peuvent obtenir, enfin, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les nourrissent, qu'ils les logent, etc. Heureusement, parce que sinon, on aurait honte d'être français, quand même, ou européen. Donc, c'est de ce côté-là qu'il se passe des choses. Il y a des tas de jeunes qui... Mon fils, par exemple, qui était caméraman, il en a eu ras-le-bol de faire des conneries au journal télévisé, des micro-trottoirs, des trucs comme ça. Et en plus, on lui demandait de faire non seulement l'image, mais le son, le montage. Et un beau jour, il s'est fâché, il leur a dit, écoutez, il y en a marre, hein, parce qu'on refusait de le faire travailler s'il n'acceptait pas de faire le son et le montage. Il dit, bon, je vous l'ai dit 100 fois, quand on fait tout, on fait rien bien. Ce qu'il sait faire, mais son métier, c'est l'image. Et je ne vais pas piquer le boulot des preneurs de son et des monteurs, qui ont déjà suffisamment de difficultés. Donc, allez vous faire foutre. Et il est parti un an dans un petit bled de Provence où il y avait un lycée agricole. Il s'est formé à l'agriculture pendant un an. Et il est allé s'installer comme maraîcher bio, à 100% bio, dans le nord du Périgord. Le nord de la Dordogne. Et là, il y a toute une série de jeunes comme lui. Il y a d'autres qui sont maraîchers, d'autres qui sont éleveurs, d'autres qui sont artisans. Et ils ont le même état d'esprit de fabriquer une société beaucoup plus solidaire, d'entraide, etc., quoi. Et ça marche très bien aussi. Mais bon... C'est pas l'agriculture bio qui est défendue par les grands syndicats agricoles et les ministères de l'agriculture, hein, malheureusement. Ça se saurait. Et pourtant, c'est bien ça qu'il faudrait faire. Comment se fait-il qu'on continue à utiliser des pesticides effrayants, des engrais dégueulasses, etc. On est en train, par exemple, Alors, ferme des 1000 vaches, ferme des 3 millions de,
plus que 500,
de poulets. Oui, voilà, mais le but, c'est 1000 vaches. Le résultat, c'est par exemple ces élevages industriels, c'est invivable pour les animaux. D'abord, ils souffrent, c'est dégueulasse, etc., comme ils sont traités. Mais en plus, médicalement, ces bestioles sont toutes malades. Il faut les bourrer d'antibiotiques. On est en train de balancer des antibiotiques partout et on est en train de fabriquer des résistances aux antibiotiques. Là, les médecins commencent à dire, attention, les antibiotiques font plus d'effet parce qu'on en bouffe tout le temps avec les animaux qui en sont bourrés. Tout ça est catastrophique. Et il y a un moment où ça va devenir irréversible, quoi, si on continue comme ça. Comment ça se fait que les gouvernements interdisent pas carrément ces fermes de 1000 vaches? Il faut les interdire. C'est dégueulasse. La manière dont les bêtes sont traitées, par exemple, sont traitées dans les abattoirs, vous avez vu sans doute, hein, il y a des assos qui ont filmé et tout ça. Mais c'est honteux, quoi, de traiter les animaux comme ça. Et on se comporte comme des gros cons, quoi. L'humanité se comporte comme une bande de gros cons qui ne respectent rien, ni les autres espèces, ni l'environnement. Voilà. Puis vous avez après le roi des cons qui s'appelle Trump et qui dit le réchauffement, ça ne vient pas de l'homme. Bon, bah, d'accord, continuons, allons-y. Enfin, voilà, quoi. Donc tout ça, il faut réagir contre tout ça, il faut se révolter. Ouais. Là, pardon.
J'aimerais recentrer le débat sur la presse.
Oui.
Parce qu'on est d'accord pour dire que la presse est vendue. Quand on voit que les propriétaires sont les PDG des CAC 40, etc. Mais ces organes de presse, ils ne se sont pas vendus pour le plaisir. Ils sont vendus pour survivre. Parce que l'information, ça a un coût. Et c'est un plan économique qu'il faut penser. Mais pour se le faire, en fait, il n'y a pas tellement d'autres choix. Il n'y a que très peu d'organes de presse comme Mediapart, Le Jour ou encore Le 1 qui arrivent à fonctionner sans propriétaire, sans publicité, etc. Je ne vois pas d'autres alternatives.
Ben si, l'autre alternative, c'est l'aide publique. Voilà. C'est de considérer que la presse est un service public et que l'État devrait... il le fait d'ailleurs en partie. Hein, il aide les journaux. Mais pas assez...
Dans ce cas-là, il y a aussi un risque quand même
de... Eh oui, bien sûr. Mais justement, si... tout ça doit être organisé comme ça l'était à la Libération, hein. C'était prévu comme ça pour que les journaux de tous bords soient aidés par l'État financièrement, puissent vivre et c'est la seule solution parce que sinon c'est les puissants qui s'en emparent. Ça a toujours été comme ça, hein. Alors qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des journaux qui appartiennent à des Dassault, par exemple, ou est-ce qu'on veut des journaux libres, contestataires, critiques, de liberté de parole, etc. Savoir quelle société on veut. Faut pas accepter qu'on vous dise on peut pas faire autrement.
Je suis d'accord avec vous, faut pas que ce soit des grands propriétaires qui dirigent, qui sont au contrôle des médias.
Oui, mais tu dis il n'y a pas d'alternative. Si.
Non, mais
il y a des modèles de financement, par exemple, dont on ne parle pas beaucoup.
Je pense que être financé par l'État, c'est pas forcément viable. Déjà parce que il y a une quantité de médias.
Ben, tu trouves pas normal que les transports soient financés par l'État, par exemple ?
Non,
T'as vu, Macron, il a essayé de remplacer les trains par les cars, là. Ils sont tous en faillite, là. Les boîtes qu'il a poussées.
Non, parce qu'il n'y a pas de finance tous les médias, parce que enfin, ce n'est pas possible, vu la quantité de médias qu'il y a, pour qu'ils puissent être assez financés pour payer l'information, parce qu'il faut payer le matériel, il faut pouvoir partir en remboursage, etc. Enfin, ça, je demande un coût assez conséquent.
Mais qu'est-ce que c'est le financement privé? Le financement privé, c'est vous et moi. Hein. Ça tombe pas du ciel. C'est soit des gens qui exploitent le travail de vos parents, par exemple, et ce qui leur permet de se payer en plus. De faire des gros bénéfices qui leur permettent de se payer en plus des organes de presse pour défendre leurs intérêts. Mais ce fric, ils ne tombe pas du ciel. Pas plus que celui qui est financé par l'État.
Enfin, un propriétaire, il a financé un seul média. L'État, il souhaite dans tous les...
Le point que tu soulèves, en fait, c'est le fait qu'un financement public ne pourrait a priori pas couvrir l'ensemble des nécessités médiatiques que vous pourrez... disons que le spectre des médias possibles ne pourrait être financé entièrement par un financement de type étatique. Mais il y a quand même quelque chose auquel on pense assez peu, et qui est mis en place de temps en temps par certains médias, qui est effectivement, comme le rappelle Marcel à juste titre, l'argent ne tombe pas du ciel. Il est produit, et la création de la valeur et de la richesse se fait par des processus particuliers, notamment d'exploitation de la force de travail, certes, et d'autres. Et donc, il y a certes le financement par le privé, par les entreprises, c'est ce qu'on connaît, c'est les médias aux mains du CAC 40, des grands entrepreneurs, etc. Ce que tu rappelais en introduction sur le Crédit Mutuel qui possède une partie des médias de l'Est et du Nord, mais aussi Dassault, Bolloré, enfin tous ces gens-là qui sont à la tête d'empires médiatiques, divers et variés d'ailleurs. Donc ça, c'est le financement privé. Il y a le financement étatique, enfin le financement de l'État, qui d'ailleurs finance également les médias privés.
Ouais.
Hein, quelqu'un comme, enfin, un journal comme Ouest France, dirigé par François-Régis Huitain et quelques autres, bénéficient très largement leur situation de monopole qu'ils ont sur la presse quotidienne régionale dans l'Ouest, par exemple, est assez clairement financée, encouragée par l'État. Comme quoi, parfois, l'État finance aussi des choses un peu étonnantes. Et puis, vous et moi, on peut tous aussi financer des choses. Et donc, il y a des modèles de financement de certains médias, je pense en Amérique du Sud, etc., où c'est bien évidemment les lecteurs qui financent par les abonnements, bien évidemment, mais aussi par le fait aussi d'avoir, en quelque sorte, des systèmes de coopératives où vous décidez ce que le média en question doit aller enquêter, chercher, etc., et que vous financez en quelque sorte, par exemple, les enquêtes au coup par coup, etc. Donc il peut y avoir des modèles très mixés, on peut imaginer un tas de trucs. Je crois qu'il faut mettre la créativité au pouvoir en ce domaine. Ouais. Il y a rajouté quelque chose.
Ouais, au-delà de la question de la faisabilité de ce financement par l'État, je pense que ça présenterait un problème que financé par l'État, puisque il pourrait y avoir un problème d'ingérence de l'État, puisqu'il finance les médias, donc il pourrait garder un certain pouvoir sur
Mais je crois que personne n'a défendu l'idée que d'un modèle soviétique de financement des médias. Personne ici n'a défendu ça.
Il faudrait que les médias soient financés
pour partie, ça ne veut pas dire entièrement non plus.
L'État ne veut pas dire le gouvernement. C'est ça le problème. C'est que il faudrait qu'on arrive à imposer aux gouvernants une autre conception de l'État. L'État ne leur appartient pas. L'État, il appartient aux citoyens. L'État, c'est nous. C'est nous qui le finançons, c'est nous qui désignons ceux qui le dirigent, et il nous appartient à nous. Alors que ces gens-là considèrent que ça leur appartient à eux. Ben non, ça leur appartient pas du tout. Et donc, là, ils sont simplement au service de la collectivité, et ils devraient être là, dans ces cas-là, pour répartir simplement, mais ils n'ont rien à exiger en échange. Mais bon, on en est loin, hein, on en est loin. Mais bon, il faut avoir ça quand même en perspective pour essayer de s'en rapprocher. Enfin, si on commence pas à rêver de ce qu'on pourrait faire, on fera rien, quoi. Et évidemment, ce dont on rêve, c'est d'une société qui est de plus en plus à l'opposé de celle qui nous est imposée, quoi. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, il faut vraiment se réveiller avant la catastrophe.
Avec Lorraine Cordassi, vous avez participé à un mouvement social qui était bien organisé. Franchement, vous n'avez pas eu bien de cause. C'est un peu le cas de Louis Debout, qui était aussi bien organisé et qui n'a pas eu le retrait de la loi travail. Est-ce que dans ce cas-là, on a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien? Même si avec LCA, vous avez fait beaucoup de choses avec la libre antenne, donner la parole à des femmes pour parler d'avortement ou à des minorités. Mais est-ce qu'on a quand même un regret, on est déçu, on se remet en cause?
On a surtout été déçus que cette expérience soit brutalement interrompue. Mais on n'est pas déçus de l'avoir connue, de l'avoir fait vivre. Au contraire. 50 ans après, on en est toujours très heureux d'avoir participé à ça. Et malheureusement, souvent, ça se termine mal. Voilà. Alors, est-ce que c'est inévitable que ça se termine mal? Moi, j'ai la faiblesse de croire que non. Mais bon, il faut batailler, et puis parfois on gagne, parfois on perd. Enfin, regardez, il y a quand même des belles histoires, il y a quand même des boîtes, par exemple, que leur patron voulait absolument fermer, et puis leurs salariés ont dit non, on ne va pas fermer, on va faire une coopérative, et les cadres s'y sont mis. Regardez, par exemple, les téléphants, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça s'appelle 300... Hein. Ça s'appelle du nombre de jours de grève qu'ils ont fait. Et ils fabriquent du thé, des tisanes, etc. Ça marche très très bien. C'est une coopérative dirigée démocratiquement et qui fonctionne très très bien. Mais il a fallu batailler contre une île verte. Ils ne supportaient pas. Ils voulaient fermer. Ils ne supportaient pas que quelqu'un d'autre la fasse marcher, cette boîte. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ben non, ça, ils ne supportaient pas. Mais ils ont été obligés de céder parce que les autres n'ont pas lâché, quoi. Il y a quand même plein de raisons d'espérer aussi. Il n'y a pas que des raisons de se flinguer, quoi.
Justement, dans les prolos, vous mettez en valeur un peu le rôle des syndicats. On a l'impression que sans les syndicats, les employés, ils n'auront pas d'avantage, en fait. On n'arrive pas à avoir d'acquis sans l'intervention de syndicats. Justement, quand vous allez voir votre cousin, je crois,
ouais.
Où il n'y a pas de syndicats, ben en fait, les employés, ils ne connaissent pas leur droit, en fait. Ils ne savent pas qu'ils peuvent demander peut-être un peu plus d'argent ou travailler moins.
Ouais. Ben, moi, je ne connais pas mieux que les syndicats pour défendre les intérêts des salariés. Voilà. On n'a pas inventé mieux jusqu'ici. Peut-être que vous allez inventer mieux. Mais enfin, jusque-là, c'est ce qui a permis quand même que les salariés ne soient pas des esclaves, quoi, hein, qu'ils soient relativement... parce que si on écoute les patrons, tout le monde est en dessous du SMIC. Donc il y a quand même des acquis dans les entreprises, il y a des accords qui ont été signés, qui ont été obtenus parce qu'on s'est battu, on a fait grève, etc. Et il y a les acquis, c'est super important. Et une fois qu'on les a, faut pas dormir, faut les défendre. Sinon, ils les reprennent. Et donc pour ça, je vois pas mieux que les syndicats, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Tu connais une autre combine, toi?
Non, je vois pas.
Oui.
Soi-même,
en plus, je trouve que dans les prolos, tout particulièrement, que les différents cas que tu montres sont aussi des différents rapports au syndicat.
C'est la même chose à chaque fois.
Voilà, c'est jamais la même chose. Et je trouve que tu montes toute la palette du syndicalisme de combat jusqu'au syndicalisme
de
collaboration assez claire, etc. Justement, je trouve que la palette est très large. Et que un des intérêts du film, enfin la manière dont tu t'y prends, c'est que voilà, tout est présenté un peu de la même manière, et donc du coup ça engage le spectateur dans le document à se positionner, à se dire ah ben non là c'est pas exactement pareil qu'avant, voilà, c'est, je trouve ça assez malin en fait, je trouvais que le rapport, justement les différentes études des cas de cas montrait bien des rapports aussi différents, certes de production, etc., de conditions, voilà, mais aussi du rôle que pouvaient jouer les syndicats de manière assez assez différente.
Qu'on a découvert en faisant ces films, c'est que les patrons, les directeurs sont pas tous des imbéciles ni des salopards, hein. Il y en a qui se comportent bien, et quand ils se comportent bien, bah, c'est mieux, hein. Moi, j'aime beaucoup ce duo-là. Je ne sais plus comment s'appelle cette entreprise du Nord, où le directeur, j'interviewe en même temps le directeur et le chef du syndicat CGT. Et qui, oui, tu l'as bien dressé. tu l'as bien dressé. C'est très, très marrant, quoi. Ces deux hommes se respectent et s'estiment. Bon, bah, donc c'est possible, c'est possible. Il n'y a pas que des patrons qui n'ont qu'une idée, c'est de blouser les prolos, les salariés le plus possible, les voler le plus possible, parce que bon, c'est très simple, hein, les richesses, elles sont fabriquées par le travail. Bon, le résultat de ce travail, c'est donc les richesses, et ces richesses sont réparties. Il y en a une partie qui revient aux salariés sous forme de salaire direct ou indirect, social par exemple, et ce qui va à ce qu'on appelle les actionnaires, les dividendes qui vont aux actionnaires. Bon, voilà. Et ben, on est dans une période où la part qui va aux dividendes augmente au détriment de la part qui va au salaire. Bon, ça aussi, c'est le contraire du progrès, ça. Parce que les dividendes, les actionnaires, ce sont des gens, comme disait Mitterrand, qui gagnent de l'argent en dormant. Hein, ça tombe tout seul, quoi. Alors que le prolo de base, il faut souffrir, hein, pour gagner juste de quoi vivre, juste de quoi se loger, transporter, etc. Bon, donc... Moi, j'ai connu une période où on avait l'impression qu'il y avait un progrès. On allait vers une société meilleure. Les parents avaient l'impression que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Et là, on est dans une période où c'est le contraire. Où les parents ont l'impression que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et qu'ils sont obligés de les protéger tant qu'ils peuvent. Même les grands-parents aussi y participent. Sinon, ils n'y arrivent pas. Ils sont précaires, ils n'arrivent pas à se loger, etc. Vous avez des gens qui restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans, quoi. Ça n'y a pas de bout. Donc comment ça se fait que les choses se sont inversées et que les choses se dégradent au lieu de progresser? Moi, c'est pour ça m'empêche de dormir, ça. Il n'y a pas de raison, quoi. Merde.
Une dernière question, peut-être? Pas d'autres questions? Bien, bah écoute, Marcel, merci beaucoup. Ta participation et cette petite discussion. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et dans 15 jours, il y a Laure du Tilleul qui vient présenter.
Ah ouais, Laure, c'est une copine.
Son film.
Lequel?
Le dernier, là.
J'ai pas vu.
Lubat père et fils.
Ah, Lubat père et fils, je ne l'ai pas vu encore. Oh, ça doit être bien, ça fait des années qu'elle travaille là-dessus. Ah
bah, 20 ans de tournage.
Ouais.